Bonjour à tous, je suis Mathis, élève au collège Jeanne d'Arc. Notre émission est sur le thème des mobilités humaines transnationales, qui est un titre un peu trop compliqué pour ce que c'est.
En gros, c'est les humains qui se déplacent d'un pays à un autre.
Je ne suis évidemment pas seul, comme vous l'avez vu, je suis avec Elisa, qui dans sa chronique personnelle va nous parler des orages.
Bonjour, je m'appelle Elisa et je fais de la musique.
Je suis aussi avec Ella, qui dans sa chronique va vous parler des nouveaux animaux de compagnie.
Bonjour, je m'appelle Ella et je fais de la danse.
Il y a aussi Thomas qui nous accompagne et qui va parler des débuts de Disney.
Bonjour, je m'appelle Thomas, mais vous pouvez m'appeler Tommy.
Moi, vous me connaissez déjà et je vais vous présenter le sommaire de notre émission. En premier, Ella va vous présenter sa chronique et suivront moi-même, Tommy et enfin Elisa. Ensuite, Tommy vous présentera son interview, suivi de Elisa, Ella et moi, tout cela rythmé par des musiques. Après cette petite présentation, nous allons commencer par écouter Higher Ground de Imagine Dragons. I knew my day will come, go back to the place that I came from. Looking back, will I think that I did it right? I still don't sleep at night. I got these symphonies stuck in my head and they don't leave. Filling up the silence with these notes. I don't want them to go. Ghosts follow me around these days. Haunting my head and house. My mind is crazy loud. But I won't give in to it. Take it all in stride. This life is such a ride. I live until I die. I walk into the fire. I'm searching for the higher ground. What a life. I live until I die. Won't fail unless I try. I'm searching for the higher ground. I've got that golden gun. I was born as the seventh son. Everything comes with conditions. Everyone's got their dirty dishes. I've got these memories stuck in my head and they won't leave. Filling up my treetops with these crows. I wish that they would go. This life is such a ride. I live until I die. I walk into the fire. I'm searching for the higher ground. What a life. I live until I die. Won't fail unless I try. I'm searching for the higher. This life is such a ride.
Genesis, the reason. Get it, got it, want it. Tell me what to do when I'm on it. I'm the witness, the witness, the witness, the witness, the witness. This life is such a ride. I live until I die. I walk into the fire. I'm searching for the higher ground.
C'était Higher Ground de Imagine Dragons. Ella va maintenant vous présenter sa chronique sur les nouveaux animaux de compagnie.
Vous vous êtes lassé des chats et des chiens, alors pourquoi ne pas adopter un NAC ? Non, ce n'est pas un animal exotique, mais l'abréviation utilisée pour désigner les nouveaux animaux de compagnie. Je vais vous présenter les caractéristiques de ces nouveaux animaux de compagnie et quels animaux sont concernés. J'aimerais vous parler de ce sujet car c'est une mode qui mène parfois à l'abandon.
Mais alors, qu'est-ce qu'un NAC ?
Un NAC est un animal autre que les chats et les chiens, considérés comme originaux à avoir chez soi.
Est-ce qu'une liste officielle de NAC a été établie ?
Oui, ce terme regroupe des espèces depuis longtemps présentes dans les familles comme les poissons, les oiseaux et les rongeurs, mais aussi des espèces plus originales comme les primates, les lézards, les insectes, les arthropodes, les crustacés, les mollusques, les amphibiens, les gallinacés et les serpents. À cela, nous pouvons encore ajouter le putois, le furet et certaines espèces de tortues selon le journal Le Monde.
Mais qu'est-ce que des primates, des arthropodes, des crustacés, des mollusques, des amphibiens et des gallinacés ?
Les primates regroupent les singes, les lémuriens, etc. Les arthropodes sont les araignées, les mille-pattes ou d'autres insectes à six pattes. Les crustacés sont les crabes, les homards, les langoustes et les crevettes. Les mollusques sont les escargots, les limaces, les moules, les huîtres, etc. Les amphibiens regroupent les grenouilles, les crapauds et les sonneurs. Enfin, les gallinacées sont les cailles, les dindes, les paons et les poules.
Quand ont-ils été reconnus comme des animaux de compagnie ?
Une liste officielle est disponible sur le site Légifrance. Elle est fixée par l'arrêté du 11 août 2006, selon le journal Le Monde. Parmi les types d'animaux permis, il y a des espèces pour lesquelles une déclaration est obligatoire et qui nécessitent l'obtention d'un certificat de capacité selon la loi.
Pourquoi les nags sont-ils à la mode ?
Le Sénat estimait leur nombre de 5 à 10 millions en France en 2022. Ces animaux sont susceptibles d'attirer l'attention du public grâce à leur exotisme et leur originalité. Le faible coût d'achat de certains pourrait aussi inciter les gens à les acheter.
Sont-ils concernés pour les abandons autant que les chats et les chiens ?
Les agents de la SPA indiquent qu'une partie considérable des propriétaires se sentent dépassés et regrettent leurs achats. Étant donné de la petite taille de certains, une partie des propriétaires pensent, à tort, que leurs besoins le sont aussi. Pourtant, comme tout être vivant, ils ont besoin d'espace, d'attention et de soins. À cause de ces contraintes, certains semblent avoir banalisé le recours à l'abandon selon la SPA. Donc oui, les nags sont souvent concernés par les abandons plus que les chats et les chiens. Les sources utilisées pour la chronique sont le journal Le Monde, Google, La Loi, la SPA et le Sénat.
Merci beaucoup Ella. On va maintenant vous passer Pumped Up Kicks de Foster the People.
Run, run, my girl. All the other kids with the bump.
vient d'écouter Pumped Up Kicks de Foster the People. Tommy va maintenant nous présenter son reportage qu'il a fait avec l'office de tourisme de Chamonix sur les avantages et les inconvénients du tourisme dans la vallée de Chamonix.
J'ai demandé des questions à l'office de tourisme de Chamonix sur les avantages et inconvénients du tourisme et voici leurs réponses. Est-ce que le tourisme peut aider à créer des emplois locaux? Si oui, dans quel domaine?
Ils nous ont répondu que le tourisme occupe une place majoritaire dans la création d'emplois et les retombées économiques dans la vallée de Chamonix.
Le tourisme peut-il nous aider à mieux comprendre les autres cultures?
Oui, il me semble que c'est la richesse et l'essence même du tourisme. Découvrir de nouveaux territoires et leurs habitants, de nouveaux paysages, faire des rencontres et découvrir de nouvelles coutumes et cultures. Se ressourcer, participer à des activités récréatives et vivre de nouvelles expériences.
Comment le tourisme peut-il aider à garder en bon état les sites historiques ou la nature?
Ils ont répondu que nous travaillons actuellement sur ce type de projet afin d'engager tous les parties prenantes du territoire à diminuer les impacts négatifs de nos activités humaines. Pour les clientèles, touristes et visiteurs, nous travaillons sur des outils pour les engager également, qu'ils deviennent davantage des visiteurs acteurs et puissent directement à l'avenir soutenir des projets d'intérêt général sur la destination à travers la possibilité d'effectuer des dons par exemple. Cela se concrétise aussi par une plus forte communication et sensibilisation des clientèles sur les différences, les bonnes pratiques et comportements à adopter en montagne et dans les réserves naturelles, des communications sur le tri des déchets et les points de collecte présents. Moloch. L'apport d'éléments des compréhensions pour mieux sensibiliser sur la vulnérabilité du territoire, les mobilités douces et les moyens de transport en commun d'accessibles, etc.
Le tourisme peut-il épuiser les ressources locales, comme l'eau ou la nourriture?
Ils pensent que ce sont des questions et des enjeux d'actualité sur lesquels nous travaillons également. Et c'est un vrai sujet pour la ressource en eau avec les impacts du changement climatique et les risques associés. Perturbation du cycle des précipitations, augmentation des périodes de canicule et risque d'incendie, risque d'augmentation des espèces néfastes et invasives, etc.
Comment le tourisme de masse en montagne peut-il affecter la faune et la flore locale?
Par les mauvaises pratiques et comportements, sortir des sentiers, laisser ses déchets sur place, se baigner dans les lacs d'altitude avec l'addition parfois des produits comme des crèmes solaires, ou y faire sa vaisselle, utiliser des drones, faire trop de bruit, se promener ou bivouaquer près des zones d'habitat de la faune sensible. En hiver, le principal risque est de perturber la faune et en ne respectant pas les zones de défense mises en place sur les domaines skiables et en pratiquant du ski hors piste, en forêt par exemple.
Est-ce que le tourisme peut apporter plus d'argent à un pays ou une région?
Ils ont répondu que oui, le tourisme contribue à une grande part du PIB national et donc sorte de retombée économique pour l'État et les régions.
Est-ce que le tourisme peut être mauvais pour la nature et l'environnement?
L'Office du tourisme a répondu. Comme toute activité humaine, le tourisme peut générer des impacts négatifs sur l'environnement. Augmentation des gaz à effet de serre avec les transports et les pollutions de l'air, pollution des milieux, dégradation des espaces naturels, conflits d'usage, etc. Mais n'oublions pas également les impacts positifs du tourisme. Ressourcement, récréation, découverte de nouveaux territoires et leurs habitants, découverte et partage de nouvelles expériences, de nouvelles coutumes et cultures, etc.
Comment on peut faire pour voyager de manière responsable et respectueuse de l'environnement?
La réponse qu'ils nous ont donnée, c'est privilégier les transports les moins polluants, opter pour un hébergement écologisé et des activités douces, respecter les bonnes pratiques en montagne et les consignes du tri de sur place, choisir une destination engagée comme la vallée de Chamonix avec label Flocon Vert par exemple, privilégier une destination de proximité et limiter le nombre de voyageurs, notamment en avion sur une année, séjourner sur plusieurs jours au même endroit et limiter les grands déplacements.
Pourquoi avez-vous choisi d'être frontalier?
Alors, on vient d'écouter... pardon. Merci Tommy pour ce reportage fascinant. Écoutons un peu de musique. Voici Si no estás de Íñigo Quintero.
C'est une musique... qui est espagnol, c'est un jeune chanteur qui l'a fait.
Qui est déjà un petit peu plus grand.
Mais par rapport à... hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
On vient d'écouter Sino Estas de Inigo Quintero. Maintenant, je vais vous présenter ma chronique personnelle sur le développement et l'histoire des sushis dans le monde. Si je vous dis sushi, vous pensez tout de suite au Japon. Et pourtant, saviez-vous qu'à la base, les premiers sushis venaient de Chine ? D'où viennent les sushis ? Comment ont-ils évolué depuis des millénaires à aujourd'hui ? Et comment sont-ils devenus populaires ? Voici des questions auxquelles je vais apporter des réponses aujourd'hui. Je vais vous présenter l'histoire des sushis, que peu de gens connaissent, et leur évolution jusqu'à leur popularité actuelle. Mais avant de vous parler des sushis que l'on connaît tous, je vais vous parler du tout début de leur histoire. On part en Chine. Au début, environ dans l'an 200 avant Jésus-Christ, en Chine, dans un village de pêcheurs inconnu dans les rizières d'Asie, est né le Naredzushi. À l'époque, pour conserver le riz, les pêcheurs chinois le fermentaient, et pour conserver le poisson cru, ils le salaient, et l'enroulaient de riz fermenté pour le garder frais plus longtemps. Ils ont au final commencé à manger le poisson cru tel quel, en jetant le riz de côté.
Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on est passé de ça au sushi qu'on connaît nous aujourd'hui ?
J'y viens. Environ vers le 8e siècle après Jésus-Christ, le mot Naredzushi s'est transformé en l'abréviation sushi. Le sushi s'est donc répandu en Chine par les marchands traversant leur pays. À cette époque, le Japon et la Chine communiquaient entre eux par le biais d'échanges commerciaux. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, le sushi s'est répandu de la Chine au Japon. La première apparition du sushi est apparue dans le code Yoro, qui est le code civil japonais écrit en 718. Pendant les siècles qui ont suivi, de nouvelles techniques de fermentation pour accélérer le processus se sont développées, mais rien de plus intéressant ne s'est passé. On va donc se rendre directement au milieu du 18e siècle, où le sushi au Japon a explosé. L'ancienne capitale Edo était remplie de restaurants de sushi. Et tout ça grâce au chef Anaya Yoei, le père du nigiri, qui a bouleversé l'histoire du sushi. Il a imaginé une nouvelle version révolutionnaire du sushi. Au lieu de jeter le riz et manger le poisson tel quel, on pourrait rajouter un peu de vinaigre au riz et le manger avec un petit bout de poisson. C'est ainsi qu'est né le nigiri, la première version dérivée du sushi. S'en suivra après le sashimi, le maki et plein d'autres sortes que l'on connaît aujourd'hui.
Waouh, je ne soupçonnais pas toute cette histoire derrière ce plat. Mais comment il est arrivé en Europe, comme pour la Chine ?
Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Et non, pas comme pour la Chine. Après la révolution japonaise Meiji, dans les années 1900, une grande vague d'immigration japonaise a démarré, et le sushi a voyagé avec eux. À l'époque, les Occidentaux n'étaient pas très friands à l'idée de manger du poisson cru. Et au final, à la fin de l'époque migratoire japonaise, à la fin des années 1900, le plat s'est fait un peu oublier. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, que le Japon s'est ouvert au commerce et au tourisme, et que par conséquent, le sushi et ses dérivés ont commencé à être appréciés à l'international, même s'ils étaient à l'époque réservés aux classes moyennes et hautes. Le sushi s'est vraiment imposé dans le monde entier, avec l'arrivée de la mondialisation. Les gens l'ont dérivé, mis du thon, du crabe, de l'avocat, du concombre, et plein d'autres aliments. Bref, c'est devenu maintenant un incontournable, n'importe où on habite, et je pense que le sushi n'a pas fini d'évoluer.
Merci beaucoup Mathis.
Elisa va maintenant nous faire écouter son interview sur c'est sur quoi déjà ?
Mon interview est sur le frontalier, et je vais interviewer Monsieur Legrand.
Alors c'est parti.
Alors j'ai choisi d'être frontalier par rapport à mon activité professionnelle. Je suis ingénieur en aéronautique, donc par rapport à mon travail, j'avais besoin d'être sur une zone avec un aéroport proche. Et dans le secteur, les aéroports les plus proches, il n'y en a pas beaucoup. C'est soit l'aéroport de Genève, donc en Suisse, soit l'aéroport de Grenoble, qui est un petit aéroport, ou l'aéroport qui se trouve à Lyon, qui s'appelle Saint-Exupéry, qui est déjà un petit peu plus grand. Mais par rapport à mes activités, j'avais plus d'intérêt à être donc à Cointrin, qui est l'aéroport de Genève, qui est un aéroport international assez important et proche de mon lieu de résidence. Donc le choix s'est imposé de lui-même par rapport à ça en fait. Donc voilà, mon choix d'être frontalier s'est fait clairement par rapport à la proximité entre mon lieu de résidence et puis mon lieu de travail.
Avez-vous eu beaucoup de difficultés à vous intégrer dans le pays ? Si oui, pourquoi ?
Non. Pas de difficulté à m'adapter dans le pays parce que la langue c'est la même. À Genève on parle français, bien que dans mon métier on parle tous en anglais, donc ça m'a pas du tout posé de problème. La seule difficulté qu'il puisse y avoir, c'est le coût de la vie qui est exorbitant. À Genève c'est très très cher, et puis surtout la problématique des embouteillages le matin et le soir pour me rendre sur mon lieu de travail qui se trouve à Cointrin dans la zone aéroportuaire. C'est plutôt ça le plus contraignant en fait. On met à peu près 1h15, 1h30 pour venir de Chamonix. Parfois, ça peut mettre 3h, même plus, en fonction des embouteillages. Donc, c'est le truc le plus compliqué. En fait.
Ne serait-ce pas moins compliqué de directement déménager vers votre lieu de travail pour éviter les trajets ?
Alors, l'aéroport de Cointrin, il est situé à peu près à 4 km au nord-est de Genève. Donc, il est c'est pas loin du centre-ville, en fait. Ça pourrait être intéressant pour moi de déménager, sauf que la problématique, c'est que le coût de la vie étant très cher, c'est compliqué de se loger aussi sur Genève. Beaucoup de Suisses viennent se loger de l'autre côté de la frontière, hein, dans le Pays de Gex, ou jusqu'à Annecy, voire Aix-les-Bains, ou même Chamonix. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a la question de l'agrément de la vie aussi au quotidien. Je ne suis pas du tout un citadin, j'ai plutôt l'habitude de vivre à la campagne et j'aime bien ma vie dans la vallée de Chamonix, et je n'ai pas pour le moment de volonté d'aller m'installer sur le secteur de Genève.
Seriez-vous prêt à revenir travailler en France ? Quelles pourraient être les raisons ?
Alors, prêt à revenir travailler en France, oui, bien sûr. Je travaille déjà en France, en fait, parce que je me déplace très souvent en France. Je suis régulièrement à Paris et puis surtout à Toulouse, puisqu'il y a une très grande zone liée au milieu de l'aéronautique sur le bassin toulousain. Donc, j'y suis très régulièrement. Donc, revenir travailler en France, ce serait bien évidemment sans difficulté pour moi. Ce qui amènerait un changement pour moi, quand même, c'est la rémunération. La rémunération en Suisse est tout de même plus importante qu'une activité équivalente en France. On gagne parfois jusqu'à 3 fois plus en Suisse pour le même niveau de qualification. Après, peut-être qu'un changement de rythme de vie, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est fatigant de faire toujours des allers-retours, donc ça pourrait amener à revenir vivre en France en permanence, ou peut-être carrément un changement de choix de vie par rapport à mon activité professionnelle. Ça pourrait m'amener à revenir vivre en France en permanence et vivre et travailler en France en permanence. Mais pour le moment, ça me convient comme ça, donc je continue comme ça.
Bien, merci Elisa pour cette interview très intéressante. Maintenant, nous allons écouter La loi du papillon de Nuit incolore. Et nous enchaînerons avec l'interview d'Ella sur les lits froids.
C'est dans les cendres que je t'attendrai, comme une dernière offrande, l'espoir ne sait plus défendre. Quelques mots doux s'envolent de ma tête, pliés en deux, ce sont des vœux qui jamais ne s'arrêtent. Quand le jour m'abîme de sa sombre folie, j'accumule les sourires sans savoir que ça m'envenime. Et dans la course contre le glas, Morphée n'héritera que de la forme de mes draps. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire? Je vois le monde comme une dystopie, sans précepte à l'inception. On s'adore, on se rejette, et le tout sans émotion. Un homme qui ne rêve pas, ce n'est pas si dérangeant. Parler de cauchemar, ça plombe les bons vivants. Un coup de sommeil qui gangrène mon cœur, je veux bien quelques conseils pour tromper mon porte-malheur. Et dans la course contre le glas, Morphée n'héritera que de la forme de mes draps. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire? Plus autant qu'avant, quand j'avais encore la vision d'un enfant. Je vois tes papillons qui s'envolent au gré du vent, je les suivrai lentement, même jusqu'au soleil couchant. J'entends les papillons qui s'envolent loin de moi, fuyant la pointe de mes doigts, je me retrouve seul dans le froid. J'entends les papillons qui s'envolent dans le noir, et quand faneront les lilas, qu'adviendra-t-il de mon histoire?
Bonjour, nous sommes avec Charlotte Demarquis pour une interview sur les livres rois. Déjà, merci d'avoir accepté mon interview. Vous êtes élue troisième adjointe au maire de Chamonix, en charge du logement, membre de la commission gestion du patrimoine et foncier.
Bonjour Ella. Eh ben, merci à toi de m'avoir conviée pour cette interview et je réponds à tes questions.
Comment pourriez-vous définir un livre rois à Chamonix?
Alors, un livre rois à Chamonix se définit comme étant tous les logements occupés seulement quelques semaines dans l'année. Généralement, ils sont situés dans un lieu de vacances saisonnier comme Chamonix par exemple.
Combien de résidences secondaires classiques sont à Chamonix?
Alors, on va plutôt parler en proportion, sachant qu'à Chamonix, on compte quasiment 10 000 habitants. On parle de 30% de résidents permanents et de 70% de résidents secondaires.
Selon vous, pourquoi les propriétaires décident-ils de laisser leurs biens inoccupés?
Alors, pour les biens fermés et inoccupés, c'est des personnes qui ont un logement à Chamonix qui viennent généralement que peu de fois dans l'année, donc en week-end ou juste pour les vacances de Noël et le reste du temps le laissent vide. Ou sinon, après, ça va être des problèmes de famille avec un logement et des problèmes de succession, par exemple.
Est-ce qu'il existe une mesure qui pourrait inciter les gens à mettre leur résidence secondaire sur le marché?
On a quelques outils qui pourraient leur permettre de mettre leurs biens à disposition des habitants permanents. On pourrait penser par exemple à une plateforme qui pourrait mettre en lien les propriétaires de logements inoccupés avec les habitants, en lien par exemple avec la mairie qui pourrait faire le lien entre les résidents permanents et ses propriétaires de biens.
Quelles sont les conséquences des livres rois sur la vallée de Chamonix et pour leurs habitants?
Alors le problème, c'est qu'après, ce sont des logements qui sont aussi, et on va en parler peut-être après plus longuement, mis sur ce qu'on appelle les plateformes de logements saisonniers type Airbnb, toutes ces choses-là, et qui malheureusement font hausser le loyer des appartements pour les résidents permanents. Donc après, le résident permanent à Chamonix a du mal à trouver un logement parce qu'il se fait rare, parce que généralement les personnes, pour des raisons qui leur sont propres, fiscales ou de simplicité, mettent leur logement plutôt en locatif de vacances plutôt que de le mettre en locatif permanent.
Est-ce que c'est un problème pour l'économie de la vallée ?
Oui, c'est un problème pour l'économie de la vallée, puisque la personne qui travaille à Chamonix mais qui a du mal à se loger, au bout d'un moment, finira par quitter la vallée et peut-être trouver un logement plus grand ailleurs et travaillera peut-être ailleurs. Donc, les entreprises de la vallée peinent à trouver et à recruter du personnel à cause de ce souci de logement, notamment.
Y a-t-il une baisse d'activité touristique à Chamonix à cause de ce problème ?
Non, pas du tout. On reste encore une ville très attractive pour le tourisme, et notamment maintenant même de plus en plus sur toute l'année. Il y a quelques années encore, on pouvait comprendre certaines périodes creuses, comme l'automne ou le printemps, mais maintenant l'activité touristique est vraiment dense sur toute l'année.
Quelles sont les solutions qui sont envisageables ?
Nous sommes rentrés en contact avec la plateforme Airbnb pour pouvoir mettre en place comme une sorte de petite surveillance de comment enquêter sur comment sont mis en location les appartements Airbnb. Alors oui, évidemment, on ne va pas taper sur les doigts et enquêter sur tout le monde. On aimerait juste que les personnes qui ont plusieurs logements, mais vraiment plusieurs, puissent mettre à disposition évidemment contre loyer, à disposition ce bien à des résidents permanents. Mais je pense, après, il faut vraiment regarder du côté des impôts, enfin, mettre en place des tas d'outils pour pouvoir inciter les personnes propriétaires à mettre à disposition leur logement aux résidents permanents.
Est-ce que les pouvoirs publics, comme les mairies et l'État, essayent de faire quelque chose face à ce problème, comme trouver des initiations à la rénovation des lits froids ?
Ah oui, bien sûr. Le maire Éric Fournier est sur le front depuis même beaucoup, beaucoup d'années. Il travaille avec les pouvoirs encore au-dessus pour trouver toutes les solutions. C'est un combat pour lui depuis plusieurs années et petit à petit, on arrive à trouver des solutions qui sont probantes. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais ça demande encore beaucoup de travail.
Existe-t-il des taxes d'habitation ?
Oui, la taxe pour les résidents secondaires qui a été mise en place, on les taxe à hauteur de 50%. Qu'on récoltera avec ces taxes permettra, nous, de travailler et de financer de la résidence permanente pour nos locaux, oui.
Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Merci à toi, Ella, et avec grand plaisir pour parler logement et d'autres sujets à Chamonix. Je suis à ta disposition. Très bonne journée et merci à toi.
Merci beaucoup, Ella. La chanson que l'on va écouter maintenant est « Dernière danse » de Indila.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour?
La chanson que l'on vient d'écouter est Dernière danse de Indila. Tommy, je crois que c'est à toi de nous présenter ta chronique personnelle sur les débuts de Disney.
Vous avez entendu que la première version de Mickey Mouse qui est apparue dans le court-métrage Steamboat Willie, ce qui veut dire en anglais Bateau à vapeur Willie, qui est le premier dessin animé à avoir des sons synchronisés avec l'animation, est entré dans le domaine public le 1er janvier 2024. Alors maintenant, tout le monde peut utiliser ce personnage dans ses projets. J'ai hâte de voir les jeux vidéo et les films dans lesquels il va apparaître. Mais attention, on ne peut que utiliser la version noir et blanc de Mickey Mouse et pas les versions plus récentes.
Ah ouais ? Je savais pas, mais est-ce qu'il s'est toujours appelé Mickey ?
Non. Au début, avant d'être venu au public, Mickey s'appelait Mortimer Mouse. Mais l'épouse de Walt lui avait proposé le nom Mickey, vu que Mortimer sonnait pas très bien et que Mickey était plus vendeur.
Mais du coup, est-ce que le studio Walt Disney a toujours produit des films, même pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Disney a produit plusieurs dessins animés de propagande pour le gouvernement américain, des vidéos de formation pour les militaires et des dessins animés pour remonter la morale au peuple.
Alors Mickey doit être très vieux s'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il doit donc être le premier personnage créé par Disney ?
Non, le tout premier personnage créé par Walt était Oswald le lapin chanceux. Walt avait créé Oswald, mais l'entreprise qui avait distribué les dessins animés d'Oswald était Universal Studios. Mais un jour, Walt découvrit que son contrat avec Universal avait expiré et que Oswald appartenait entièrement à Universal.
C'est donc pour ça qu'il a créé Mickey ?
Mickey est bien inspiré par Oswald, mais Walt avait besoin d'un autre animal. La raison que Walt avait choisi une souris est parce que l'ancien animal de compagnie sur la ferme de la famille de Walt est une souris, donc c'est pour ça que Mickey est une souris. Pour conclure, le studio Disney a été là pendant plusieurs générations. Disney a fait rire des milliers de personnes. Disney est une marque dans l'histoire de l'animation et laissera pour toujours une marque dans le monde.
Merci Tommy. On va maintenant vous passer « Alors on danse » de Stromae.
Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famine dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini.
La musique que l'on vient d'écouter était Alors on danse de Stromae. Je vais maintenant vous présenter mon interview que j'ai faite sur les avantages et les inconvénients du tourisme dans la vallée de Chamonix avec Jean-Marc Pascal. La première question qu'on lui a posée est: quelles sont les nationalités ou pays qui viennent le plus dans la vallée de Chamonix ?
Alors, selon les années et les saisons, donc quand vous dites nationalité, je pense que vous parlez donc de la clientèle étrangère. Donc les premiers sont les Anglais, Et ensuite, selon les années et les saisons, encore une fois, donc il y a les Suisses, les Suédois, et il y a également une grosse présence donc des Américains, mais essentiellement sur la saison estivale. Pourquoi c'est une question vaste. J'ai envie de dire que chaque nationalité a ses raisons pour venir dans la vallée de Chamonix. Selon moi, il y a avant tout des raisons historiques pour la clientèle du Royaume-Uni. Il y a avant tout une raison économique pour la clientèle suédoise et, on va dire, scandinave au global. Plus précisément, venir au sport d'hiver dans les Alpes coûte beaucoup moins cher que s'ils profitent des stations de sport d'hiver à domicile. Les Américains y viennent beaucoup pour faire principalement le tour du Mont Blanc à pied. Le tour du Mont Blanc, donc, c'est un must-do pour toute culture anglophone, on va dire classe moyenne et classe moyenne supérieure. Un must-do, donc, c'est-à-dire que si on appartient à cette fameuse classe sociale, eh ben, on doit avoir fait ça dans sa vie. Donc tout Américain qui se respecte et tout Anglais qui se respecte doit avoir fait le tour du Mont Blanc dans sa vie. Enfin, les Suisses, c'est proximité et pouvoir d'achat. Voilà les raisons principales que je donnerai.
Ok, merci pour cette réponse. Est-ce que le tourisme représente une part majoritaire des revenus de la vallée de Chamonix ?
Alors, le tourisme représente bien sûr la majorité des revenus de la vallée de Chamonix. Si on en croit le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet, publié en 2022, l'activité touristique ajoutée aux revenus fonciers de la vallée de Chamonix représente 70% des recettes de la communauté de communes de la vallée de Chamonix.
Très bien, merci. Est-ce que vous trouvez que le tourisme dans la vallée de Chamonix a baissé après l'arrivée du Covid ?
Après la fin du Covid, non. Le tourisme est revenu à ses niveaux d'avant Covid, voire même pour les saisons donc 2023, 2022-2023, qui ont été des saisons records, que ce soit aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Donc on est revenu après Covid à des niveaux d'activité supérieurs à ceux connus avant le Covid.
Très bien, merci. Quand est-ce que les touristes viennent le plus dans la vallée de Chamonix, donc par exemple en les saisons ?
Alors, on est à peu près à 5 millions de nuitées donc dans des hébergements professionnels dans la vallée de Chamonix, entre 4,5 millions et 5 millions depuis les dernières années, hors année Covid bien entendu. Et ces fameux 4,5 millions, 5 millions de nuitées représentent environ 1,5 et 1,8 millions de nuitées donc l'été et 3,6 à peu près millions de nuitées l'hiver. Donc il y a alors une nuitée, pour être plus précis, donc la durée moyenne de séjour d'un touriste à Chamonix, dans la vallée de Chamonix, c'est 2 nuits. Donc finalement, pour avoir le nombre de touristes dans la vallée de Chamonix, on divise le nombre de nuitées par 2 à peu près, hein. On est entre 1,8 et 2. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'année, on a à peu près 2,5 millions de touristes. Un touriste étant quelqu'un qui dort dans la vallée de Chamonix, qui est différent. Donc la définition et la différence à bien faire, c'est l'excursionniste qui, lui, vient passer la journée dans la vallée de Chamonix, mais ne dort pas dans la vallée de Chamonix. Voilà à peu près les quantitatifs.
Merci. Et est-ce que vous savez pourquoi ces saisons-là sont majoritairement plus prisées par les touristes ?
On va dire que historiquement, c'était le tourisme hivernal qui était supérieur au tourisme estival. Alors ça l'est toujours, si on revient au quantitatif de la question précédente, ça l'est toujours en nombre de nuitées. Par contre, ça ne l'est plus en recettes. C'est-à-dire que les recettes, à savoir donc les chiffres d'affaires générés par le tourisme estival, est maintenant supérieur aux chiffres d'affaires générés par le tourisme hivernal depuis maintenant plusieurs années.
Très bien, merci.
Je crois que Mathis a très bien fait son interview, mais tout le monde a le droit d'avoir une opinion différente.
On va maintenant vous présenter la dernière chronique de notre groupe. C'est la chronique personnelle d'Elisa sur les éclairs.
90 000, c'est le nouveau record d'éclairs tombé en France en automne 2021. Bonjour, je m'appelle Elisa et je vais vous parler de la dangerosité de la foudre. En 2021, il y eut tellement d'éclairs entre juillet et septembre que la France a battu son record avec plus de 40 000 éclairs nuages seuls enregistrés, ce qui classe les mois de juin et septembre parmi les plus foudroyés depuis 1989. C'est un spectacle impressionnant qui peut être dangereux. Je vais donc essayer de vous expliquer pour vous en protéger au mieux.
Qui dit éclair dit orage. Comment savoir s'il y en a un ?
On peut déjà observer le ciel. Un ciel gris virant au noir annonce peut-être un orage. La sensation de lourdeur d'air est aussi un indicateur. Il existe aussi des outils pour mesurer les différentes pressions, par exemple un baromètre. Les météorologues, eux, ont des outils plus techniques et plus précis.
Mais alors, combien de temps peut durer un orage en moyenne ?
Les orages ne durent jamais longtemps. Le plus souvent, entre une dizaine de minutes à quelques heures. Lorsque l'air est suffisamment froid, l'orage perd de sa puissance puis s'arrête.
Ça peut être une question de chaleur si les orages sont plutôt le soir ou la nuit ?
Oui, exactement. L'humidité joue un rôle important dans les déclenchements des éclairs. Le jour, le soleil réchauffe le sol et la terre est moins humidifiée. Alors que la nuit, le sol devient plus humide, ce qui augmente les chances de déclencher des orages.
Maintenant que nous en savons plus sur les orages, revenons aux éclairs. Existe-t-il plusieurs formes d'éclairs ?
Un éclair se forme par la différence de charge électrique entre l'air et le sol. Il existe des éclairs positifs qui sont très directs et des éclairs négatifs qui ne le sont pas. Il y a différentes formes comme les décharges nuage-nuage, qui est un éclair qui va d'un nuage à l'autre, les décharges sol-nuage, qui partent du ciel pour aller dans le ciel, le sol, et les décharges nuage-sol, qui partent du nuage pour aller au sol.
Rentrons un peu plus dans notre sujet. Est-ce que tous les éclairs ont la même dangerosité ?
Chaque éclair est unique et a une puissance électrique différente des autres. Par exemple, le coup de foudre nuage-sol, positif, est le plus puissant, car il est assez direct, sans ramification.
Quels sont les risques d'un coup de foudre à part tomber amoureux ?
La foudre peut déclencher des gros incendies qui peuvent brûler des forêts ou des habitations. Elle peut aussi tuer des gens. En moyenne, 10 à 30 personnes par an meurent d'un orage en France et environ 300 sont foudroyées et peuvent avoir des séquelles ou des cicatrices. Il peut aussi avoir des accidents en voiture à cause des chutes d'arbres.
Maintenant que nous avons parlé des dangers, y a-t-il des manières de se protéger ?
En cas des orages, évitez les promenades en forêt ou les sorties en montagne. Évitez les objets conducteurs en fer ou l'eau et surtout, ne pas téléphoner. Ne restez pas sous un arbre ou sous un parapluie. Normalement, les bâtiments sont équipés de paratonnerres. C'est un câble relié à la terre qui sert de délestage en cas de coup de foudre. Les voitures sont équipées de pneus qui isolent du sol. Il n'y a donc aucun risque d'électrocution, mais il peut y avoir un feu ou des arbres sur la route. S'il n'y a pas d'abri, couchez-vous, et le mieux sur une matière isolante telle que le plastique. Je trouve que les éclairs sont dangereux. Si nous allons dans un endroit à risque, le mieux est de regarder la météo avant de partir, car chaque année, beaucoup d'accidents arrivent, car les gens ne prennent pas en compte les dangers. Ce qui fait que les secouristes se déplacent et parfois risquent leur vie pour des gens inconscients.
Merci pour ces quelques informations, j'espère que cela vous a aidé.
Merci beaucoup Elisa pour ta chronique. On arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous l'avez bien aimée et merci de nous avoir écoutés. Je remercie également l'équipe de Globule Radio de nous avoir donné cette opportunité vraiment très sympa. Nous nous sommes amusés en faisant ce projet. Nous sommes aussi reconnaissants à notre collège de nous avoir permis à faire ce projet. Et merci encore.
But I'd been forgotten, Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from?